Portrait d'Orient, Olivier Dallage.
Journaliste britannique, écrivain, consultant, il a consacré toute sa vie au Moyen-Orient dont il connaît tous les acteurs depuis près d'un demi-siècle. Portrait d'Orient reçoit aujourd'hui Patrick Seal. Bonjour Patrick Seal.
Bonjour.
Vous avez choisi de vous spécialiser sur le Moyen-Orient, principalement le monde arabe, mais c'est en fait que vous y avez goûté dès votre plus jeune âge.
Exactement. J'ai eu une sorte de relation d'amour avec la Syrie. J'y ai habité quelques années dans ma jeunesse. Mon père était un missionnaire protestant qui dirigeait une mission irlandaise en Syrie. Il avait un petit réseau d'églises et d'écoles surtout. Et alors c'est là où j'ai passé ma jeunesse, c'est là où j'ai appris le français d'ailleurs. Et donc j'ai vu le mandat français, cette étape de l'Empire français au Levant.
Vous êtes resté jusqu'à quand ?
Eh bien, je suis resté jusqu'en 45. Alors j'ai vu la défaite de Vichy en 41, j'ai vu le bombardement de Damas en 45, j'étais très jeune mais je l'ai vu, un bombardement de Damas comme les Français l'ont fait en 25 déjà. Alors immédiatement après la guerre, nous sommes rentrés en Angleterre.
Études britanniques très classiques. Hein.
Pensionnat britannique pour garçons. Après mon service militaire dans l'armée britannique pendant 2 ans.
Ce qui vous fait revenir d'ailleurs au Moyen-Orient.
Absolument. J'ai passé 1 an comme un jeune officier britannique dans la zone du canal, sous la tente. Et après, je suis retourné en Angleterre. Je suis retourné à Oxford faire des études là-bas de philosophie et de psychologie. J'ai fait une licence de cela à Oxford au début des années 50. Et puis j'ai travaillé chez l'agence Reuters.
Donc ça, c'est les débuts dans le journalisme.
Mais voilà, les débuts dans le journalisme, dont 3 ans à Paris, d'ailleurs.
Vous occupez de plusieurs régions du monde, pas spécialement du Moyen-Orient, mais aussi.
Ah oui, mais pas spécialement, non, parce qu'à cette époque, je n'étais pas encore journaliste dans le monde arabe.
Ça vous fait voyager quand même en Afrique, en Inde, et quand même un peu aussi au Moyen-Orient.
Ça, c'est plus tard.
C'est plus tard.
Ça, c'est plus tard, quand je suis devenu le correspondant de l'Observer, c'est un grand journal hebdomadaire britannique. Et c'est là, j'étais à la fois leur correspondant au Moyen-Orient, et c'est là où j'ai fait des voyages ailleurs, j'ai couvert des guerres entre l'Inde et le Pakistan, je suis allé en Afrique, etc. Et après, j'étais correspondant à Paris en 68 pour The Observer.
Vous allez toujours là où il se passe des choses, au moment où il se passe des choses. Hein.
J'ai eu beaucoup de chance.
Alors, vous débarquez à Beyrouth comme correspondant, jeune journaliste, correspondant pour le Moyen-Orient de The Observer, qui est un grand hebdomadaire britannique.
Oui.
Et couvrant tout le Moyen-Orient et, comme on l'a dit, d'autres régions. C'est donc une responsabilité importante. Hein. Et vous succédez à un personnage de légende.
Oui, oui. Mais c'est-à-dire, je suis arrivé au Moyen-Orient parce que j'étais retourné à Oxford au début des années 60 pour faire une sorte de thèse. En fait, mon premier livre, qui s'appelle « The Struggle for Syria », « La lutte pour la Syrie ». Pendant que je faisais mes recherches et que j'écrivais ce livre, à ce moment-là, j'étais à Beyrouth, je faisais mes recherches, j'allais à Damas constamment pour voir les dirigeants du Baath, etc. D'ailleurs, j'ai couvert les révolutions du Baath, quand ils sont venus au pouvoir à la fois à Bagdad en février 63 et à Damas en mars 63. C'était juste à ce moment-là que Kim Philby, le grand espion britannique, a disparu.
On peut quand même rappeler, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est, ou plutôt qui était Kim Philby.
Alors, Kim Philby, je ne veux pas vous raconter toute son histoire, c'est très long, parce que j'ai écrit un livre sur lui plus tard. Mais Kim Philby était le fils d'un grand officiel britannique, St. John Philby, qui avait quitté le service britannique et avait quitté le christianisme pour se convertir à l'islam, et est devenu le confident et le conseiller du roi Ibn Saoud d'Arabie Saoudite.
Il était le grand rival de Laurence d'Arabie.
Enfin, peut-être. C'est-à-dire, en tout cas, il trouvait que les Britanniques avaient fait une erreur de soutenir les Hachimites contre les Saoudiens. Donc, le roi lui avait donné 2 esclaves féminines, et il en a libéré une et a épousé l'autre. Donc, Kim Philby, son fils très britannique, s'est trouvé avec 2 demi-frères de son père. Parce que en 53, quand le roi Ibn Saoud est mort, St. John Philby a trouvé que c'était mieux de quitter l'Arabie. Il n'était pas en très bon terme avec les fils. Il est venu s'installer dans un village libanais, à Jotun avec sa famille.
Où vous l'avez rencontré?
Je l'ai rencontré, je suis allé dîner chez lui à la fin des années 80.
Alors, revenons à Kim Philby, c'est un personnage de légende, je disais, parce que sous sa couverture journalistique, c'était un espion britannique, et en fait, on a appris par la suite qu'il espionnait réellement pour le compte de l'Union soviétique.
Oui, les Britanniques l'ont chassé du service britannique en 51. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez du scandale de Burgess et MacLean, c'est de deux autres Britanniques qui se sont enfuis vers Moscou. Et comme il était leur ami, il est tombé sous une sorte d'ombre et les Britanniques l'ont chassé du service. Mais en 55, ses amis ont dit que peut-être la sentence était trop dure, etc. Et ses ennemis aussi au sein du service ont pensé que pour vraiment être sûr que c'était un espion, il fallait le remettre en jeu.
Alors, prendre la main sur...
Voilà. Alors ils ont convaincu l'Observer, le rédacteur en chef et propriétaire de l'Observer à l'époque, David Astor, de l'envoyer au Moyen-Orient comme son correspondant. Alors il était à Beyrouth depuis 55-56. Et quand je suis arrivé moi-même en 60, je l'ai découvert là. Mais comme il y avait plusieurs pays où on ne pouvait pas aller pour diverses raisons, je suis devenu pigiste pour les Observer. Et quand il a disparu au début de 63...
Vous étiez le remplaçant naturel.
Voilà. Alors, l'Observer m'a nommé leur correspondant officiel. Alors,
il avait déjà cette réputation d'espion dans la région ou pas?
C'est-à-dire, presque tout le monde pensait que c'était un espion britannique.
Mais pas
un espion soviétique.
Non, mais la raison pour laquelle je pose la question, c'est que quand on arrive comme correspondant de l'Observer à Beyrouth pour succéder à quelqu'un qui est connu comme le loup blanc comme étant un espion britannique, est-ce qu'on n'est pas soi-même soupçonné
d'être... Moi,
oui.
Non, moi j'avais une carrière tout à fait différente que lui.
Revenons à cette époque. Oui. À quoi ressemble le Moyen-Orient quand vous prenez votre fonction? C'est le nationalisme triomphant, Nasser est l'idole. La Syrie et l'Irak sont portés par une vague nationaliste. L'Algérie vient tout juste d'accéder à l'indépendance.
Absolument. C'était la période de la décolonisation, n'est-ce pas? Les Britanniques, et j'étais là, ont été chassés d'Aden en 67. Au sud du Yémen, c'était un grand port britannique. À l'époque, les Britanniques contrôlaient tout ce qui est maintenant le sud.
C'était la route des Indes.
Voilà, c'était la route des Indes. Exactement comme ils contrôlaient ce qui était des petits comptoirs et des terrains d'aviation dans le Golfe pour les Britanniques sur la route des Indes, exactement. Alors, grâce à la décolonisation, les Britanniques n'ont pas su gérer leur départ d'Aden. Ils en ont été chassés par le mouvement nationaliste. Et un gouvernement marxiste y est établi. Mais il n'a pas duré très longtemps. Mais, bref, je suis allé, par exemple, dans le Golfe. Les Britanniques ont quitté le Golfe en 71, mais j'y suis allé bien plus tôt en 65. Par exemple, je me souviens très bien, j'ai déjeuné sous un arbre, assis par terre, avec le cher Zayed, qui est après devenu
l'émir d'Abu Dhabi, le président des Émirats Arabes Unis,
voilà, le père fondateur de cette fédération. Et à l'époque, il était le gouverneur de Al Ain, ça s'appelait.
C'est l'oasis dans le désert.
Voilà. Il n'avait pas encore renversé son frère Charpout, que j'ai interviewé en 65, qui était encore dans une petite maison faite de...
C'est important de resituer ça, parce que quand on dit émir d'Abu Dhabi, on imagine tout de suite quelqu'un de très très riche. Mais Charpout, dont vous parlez, au début des années 60, c'était quelqu'un de très pingre qui cachait son argent sous son lit.
C'est ce qu'il disait. C'est ce que tout le monde disait.
Et c'était vrai?
Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'après mon interview, j'avais quitté sa petite demeure très très modeste, il faut dire, faite en terre cuite. Et un de ses assistants s'est accouru derrière moi pour montrer un carnet de chèques, en me disant, regardez, c'est un carnet de chèques, il a un compte en banque. Pour prouver que son argent n'était pas sous le lit.
Et quand il vous arrive aujourd'hui de voyager aux Émirats Arabes Unis, de voir ce qu'est devenu Dubaï avec ses tours futuristes?
Écoutez, ce qui est devenu le Golfe, c'est la grande réussite du monde arabe, il faut le dire, depuis 40 ans. Le Golfe est devenu un pôle de modernité, de développement, de richesse, d'éducation, de culture. Non, mais il faut l'accepter. Quand on voit les grands musées qu'il y a maintenant, à Abu Dhabi, à Bahreïn, au Qatar, des choses magnifiques.
Et les grands centres de la culture arabe, comme l'Égypte, comme l'Irak, comme la Syrie?
écoutez...
Ils sont restés derrière.
Il y a eu un décalage, c'est-à-dire que ces grands centres ont perdu de leur influence, il faut le dire, n'est-ce pas? Pour toutes sortes de raisons. Une raison qu'on oublie quelquefois, c'est la poussée démographique. Vous savez, quand j'ai fait mon premier livre sur la Syrie, dans les années 60, il y avait 4 millions de Syriens. Il y en a maintenant 20 millions. Quand Nasser a pris le pouvoir en Égypte en 1952, il y avait 18 millions d'Égyptiens. Il y a maintenant presque 80 millions d'Égyptiens. Il y a 35 millions d'Algériens. Ce sont des problèmes immenses.
Alors cette passion pour la Syrie, on en a parlé tout à l'heure, vous y avez passé votre enfance, vous avez consacré un livre.
Deux livres, enfin, parce que après j'ai fait...
Et voilà, c'était au début des années 60. Et puis après, le coup d'état de 70 qui va porter le général Assad au pouvoir, vous allez avoir l'occasion de le rencontrer très souvent. Vous allez même devenir l'un de ses rares confidents non-arabes.
Je suis devenu son biographe, en fait. J'ai écrit un livre pendant les années 80. Le livre est apparu dans les années 80. Il a voulu, je crois, que je l'écrive plus tôt, mais je me suis dit c'est trop tôt, il faut attendre un petit peu. Quand il est tombé malade en 84, je me suis dit il faudrait que je me dépêche, vous allez le voir. Il m'a dit oui, écrivez ce que vous voulez. Il faut dire qu'il n'a pas demandé à voir le texte, mais il a interdit le livre quand je l'ai publié. Le livre a été interdit, mais tout le monde a lu, parce qu'il a été, il est venu de
Beyrouth. C'est le miracle. Des contournements de la censure dans le monde arabe.
Oui, et puis j'ai appris que quand l'ex-président Jimmy Carter est venu à Damas en visite privée beaucoup plus tard, Hafez al-Assad lui a donné un exemplaire de mon livre, qu'il était interdit en Syrie.
Dans vos voyages et votre carrière au Moyen-Orient, vous êtes plus d'une fois amené à croiser la réputation d'abord, et peut-être même l'homme lui-même, qui est recherché par les services du monde entier, Abou Nidal. Et vous lui consacrez aussi un livre.
Oui. Vous savez, je ne l'ai jamais rencontré. Il faut dire, je n'ai jamais rencontré Abou Nidal. C'est plutôt Abou Iyad qui était chargé des...
C'était le chef des services de sécurité de l'OLP. Hein.
De l'OLP, que j'avais rencontré plusieurs fois à Tunis, quand j'étais à Tunis, qui m'a dit, pourquoi vous n'écrivez pas un livre sur Abou Nidal? Donc je lui ai dit, écoutez, je n'ai pas de source. Il m'a dit, je vous en trouverai. Alors il m'a aiguillé vers plusieurs de ses collaborateurs et aussi vers plusieurs transfuges de l'organisation d'Abou Nidal.
Et vous savez si Abou Nidal a eu connaissance de votre livre et s'il a eu une réaction?
Ah, je crois qu'il l'a su après la publication. Évidemment, j'ai reçu quelques coups de téléphone menaçants.
Ah oui. et une menace d'Abou Nidal qui était quand même, pour se remettre dans l'état d'esprit des années 80, le terroriste le plus dangereux du monde. En tout cas, c'était la perception qu'on en avait.
Je crois qu'il n'était pas mécontent qu'on le prenne assez au sérieux pour avoir un livre consacré à lui.
D'Orient est aujourd'hui consacré à Patrick Seale, journaliste et écrivain. En août 90, l'Irak envahit le Koweït. 6 mois plus tard, l'une des plus formidables coalitions de l'histoire entre en guerre contre l'Irak. Le commandant en chef est un Américain, le général Schwarzkopf. Son adjoint est un Saoudien, le prince Khaled Ben Sultan, qui est le fils du ministre de la Défense de l'époque, aujourd'hui prince héritier d'Arabie Saoudite. Et quelques temps plus tard, il publie ses mémoires de guerre avec votre assistance. Du temps a passé, on peut parler plus librement. Quel a véritablement été le rôle des armées arabes dans ce conflit ?
Assez considérable, quand même.
C'était pas juste pour la décoration, pour le symbole politique ?
Ah non, 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 non. C'était un rôle véritable. D'ailleurs, le prince Khaled commandait environ 200 000 hommes. Et il y a eu des batailles féroces, notamment autour de Koweït. Mais évidemment, la relation entre les Saoudiens et Schwarzkopf, le général américain qui commandait tout, n'était pas toujours facile.
C'est quoi, c'était des raisons de géopolitique, le caractère des deux hommes?
Oui, le caractère des deux hommes, Schwarzkopf un peu autoritaire, il fallait le tenir, il fallait surtout savoir ce qu'il proposait faire. Et c'est là où je crois le prince Khaled a joué un rôle très important, parce que lui-même était une personnalité forte, assez forte pour pouvoir traiter avec Schwarzkopf en égalité, plutôt que comme l'adjoint.
Le fait qu'il soit un des membres principaux de la famille royale doit aussi aider à donner de l'autorité.
Oui, c'est cette guerre en 91, n'est-ce pas ? C'est une guerre très importante. Ce qui est triste, à mon avis, c'est qu'elle a été suivie par 13 ans de sanctions punitives contre l'Irak, qui n'était pas du tout nécessaire. Après tout, il avait été expulsé du Koweït, c'est-à-dire rentré chez lui. Et après, n'oublions pas la seconde guerre contre l'Irak.
En tout cas, le monde arabe, déjà en pas très bon état, ressort de cet épisode encore plus divisé.
Écoutez, j'ai été témoin pendant toutes ces décennies du remplacement des Britanniques et des Français par les États-Unis. Une nouvelle puissance, on ne peut pas dire coloniale, mais une nouvelle puissance dominante dans la région. Et ce n'était pas vraiment à l'avantage des Arabes. D'abord à cause de l'alliance très étroite entre les États-Unis et Israël, d'un côté. Deuxièmement, dans cette dernière décennie, le rôle très important des néoconservateurs pro-israéliens à Washington. Donc les Américains ont été poussés à faire la guerre contre l'Irak, à mon avis, un des grands crimes du 21e siècle, n'est-ce pas ? Ils ont détruit un grand pays arabe, ils ont tué des centaines de milliers de personnes, et ils ont détruit toute l'infrastructure d'un pays. Et aussi, les Américains ont beaucoup souffert eux-mêmes, leurs troupes, la banqueroute de leurs finances, la banqueroute de leur réputation, leur autorité morale. Donc, heureusement, maintenant qu'il y a l'émergence d'un miracle, Obama.
Revenons quand même à la période qui précède immédiatement l'invasion du Koweït. Oui. Il y a un sommet arabe qui est réuni au mois de mai 90 à Bagdad. Et le président syrien refuse d'y aller en disant, selon l'intermédiaire palestinien qui a tenté de le faire venir, « Moi, je ne veux pas aller cautionner les demandes irakiennes sur les deux îles koweïtiennes de Warba et Boubiane. » Est-ce qu'il est vraiment le seul à avoir pressenti que l'Irak était en train de se mettre en ordre de bataille pour envahir le Koweït ?
Je ne peux pas l'affirmer. Vous savez, personne vraiment ne savait exactement ce que pensait Saddam à ce moment crucial. Même les Américains qui le connaissaient bien après tout et qui avaient des liens étroits avec lui, même les Français aussi qui avaient des liens étroits, pensaient qu'il allait peut-être simplement prendre une zone frontalière qui était disputée avec le Koweït, une zone peut-être où il y avait du pétrole, ou peut-être une de ces îles justement dont vous parliez, qui bouchait un petit peu l'accès à Basra, l'accès au château.
Le port irakien
sur le château arabe, n'est-ce pas ? Donc, si vous regardez la carte, vous verrez que les Britanniques qui ont tracé ces frontières n'ont pas bien servi l'Irak. Ils ont donné au Koweït une très large côte, n'est-ce pas, sur le Golfe, et l'Irak était presque enclavé. Donc, l'Irak a toujours voulu sortir un petit peu de cet enclavage.
Mais la rivalité entre Saddam Hussein et Hafez al-Assad était proverbiale. C'était une rivalité de bas assise, parce qu'ils appartenaient tous les deux au même parti arabe nationaliste. C'était une rivalité nationale entre l'Irak et la Syrie, ou c'était simplement le choc de deux égaux, d'aspirants au leadership du monde arabe ?
Vous savez, c'était des personnalités très différentes. Saddam, impulsif, se prenant très au sérieux, très. Tandis que Hafez al-Assad, très réaliste, très prudent, prêt à se retirer si nécessaire, n'est-ce pas, comme il a fait en 98, par exemple, face aux Turcs. Mais je crois que la grande rupture entre eux s'est faite en 80, quand Saddam Hussein envahit l'Iran. Grave erreur, selon Hafez al-Assad. N'est-ce pas, cette guerre a duré 8 ans, de 80 à 88. Et c'est à ce moment-là, en 80, même un peu plus tôt, en 79, n'est-ce pas, que Hafez al-Assad s'est lié avec l'Iran.
C'est un choix stratégique qui persiste encore aujourd'hui.
Le seul pays arabe à comprendre que c'était une mauvaise guerre contre un mauvais ennemi, n'est-ce pas. Il faut revenir un petit peu en arrière, n'est-ce pas. Il faut revenir à la guerre de 73. Que Hafez al-Assad et le président Sadat d'Égypte ont combattu ensemble, n'est-ce pas, contre Israël en 73. Mais très vite, Sadat a abandonné son partenaire syrien, en fait. A fait un accord de désengagement avec Israël, puis a fait la paix. Vous vous souvenez, hein, 78, 79. Alors il y a eu une sorte d'échange de partenaires. Israël a gagné l'Égypte dans le traité de paix, et la Syrie a gagné l'Iran, qui avait été le partenaire d'Israël, l'allié d'Israël. Il y a eu un échange. Alors depuis 1979, a commencé l'accord stratégique entre la Syrie et l'Iran, qui dure jusqu'à présent, et qui est à la base de cet axe Téhéran-Damas-Hezbollah, qui est un facteur géopolitique essentiel de la région aujourd'hui.
Après la crise du Koweït, il y a la conférence de paix organisée à l'initiative du président Bush, père, à Madrid. Des négociations qui s'enlisent assez rapidement. Première négociation directe entre la Syrie et Israël qui siennent dans le Maryland, qui vont échouer, chacun partant avec une perception différente. Mais quelques temps plus tard, en 1999, les choses reprennent et vous en êtes le témoin direct, et je dirais même plus, un peu plus que le témoin. Vous allez faire une interview successivement de Hafez al-Assad et d'Ehud Barak, dans lesquelles ils échangent par votre intermédiaire des messages.
Enfin, c'était un peu un hasard. J'ai réussi à voir Ehud Barak, juste après son élection, mais avant qu'il me prenne le pouvoir, en fait. Il avait un mois de différence, 99. Et après, alors, il a dit des choses très agréables sur Hafez al-Assad. Il a dit que la Syrie était la clé de voûte de la paix au Moyen-Orient. Alors, quand j'ai entendu ça, j'ai couru à Damas. J'ai eu une interview avec Hafez al-Assad et je lui ai répété ce que Barak avait dit. Alors, il lui a dit, enfin, un Israélien avec qui je pourrais peut-être traiter. Bon, alors, avec l'encouragement, il faut dire, des Syriens, j'ai fait une sorte de navette entre Damas et Tel Aviv.
En partie, c'est une navette journalistique parce que vos articles étaient publiés dans Al-Hayat.
Ah, c'est sûr.
Et puis, probablement, il y avait une partie qui n'était pas publiée.
Voilà, je suis allé deux ou trois fois. J'ai tenté de persuader Ehud Barak de souscrire à l'engagement qu'avait donné Rabin, Yitzhak Rabin, et que Shimon Peres a répété après l'assassinat de Rabin, vous vous souvenez, en novembre
95,
de se retirer du Golan jusqu'à la ligne de 1967. C'était une sorte d'engagement que Rabin avait donné aux Américains. Soi-disant,
c'est ce qu'on a appelé, dans le jargon diplomatique, « pocket agreement », parce que le papier était mis dans la poche de chacun des...
Oui, c'était après, on l'appelait « the deposit que Israël avait donné, avait mis dans le « pocket » des Américains, le dépôt qu'il avait mis. Bon, c'est une sorte d'engagement verbal, mais très clair, qu'il avait donné au secrétaire d'État à l'époque, Warren Christopher, américain, mais que Barak refusait d'accepter.
Alors, il en reconnaissait l'existence ?
Ah oui, il reconnaissait l'existence, mais lui me disait, il l'a répété plusieurs fois, ce serait un suicide politique pour moi, un suicide politique, il l'a répété 3 ou 4 fois. Donc moi je suis allé lui dire, écoutez, c'est le moment de le faire, puisque vos prédécesseurs l'ont fait, faites-le. Il l'a refusé, alors mon voyage était un échec.
Mais oui et non, dans la mesure où à la suite de ces navettes et de ces échanges d'amabilité, il y a quand même eu la reprise formelle des négociations qui se sont tenues au début de l'année 2000 dans la banlieue pas très loin de Washington.
Oui, mais qui n'ont pas abouti, comme vous savez.
Elles ne pouvaient pas aboutir ? Vous voulez dire qu'elles ont commencé alors que tout le monde savait qu'elles ne pouvaient pas aboutir ?
Non, je veux dire que Barak n'était pas prêt à accepter ce retrait jusqu'à la ligne de 67. Au contraire, quand Hafez al-Assad, 2 ou 3 mois avant sa mort, n'est-ce pas, vous vous souvenez, en mars 2000, a eu sa fameuse rencontre avec Bill Clinton à Genève. En mars, il est mort en juin, il était très affaibli. Alors, Bill Clinton l'a appelé. Bill Clinton était en Inde. Il a appelé Hafez al-Assad en lui disant, j'ai une bonne nouvelle pour vous, venez me rencontrer à Genève. Alors, Assad a pensé, finalement, que Barak avait accepté ce fameux dépôt dans la poche des Américains de se retirer.
Parce que dans la culture arabe, si on se déplace et on fait venir quelqu'un, c'est qu'on a déjà la solution.
Voilà. Alors, il est arrivé avec 130 personnes. Il pensait que, voilà, il allait régler le problème une fois pour toutes. Alors, malheureusement, dès que Clinton a ouvert la bouche, Hafez al-Assad s'est rendu compte que non seulement Barak n'était pas prêt à se retirer jusqu'à l'année 67, il voulait pousser la frontière plusieurs centaines de mètres vers l'est pour contrôler la route qui contourne le lac de Tibériade. Parce que toute cette question a à faire avec la côte du nord-est du lac, n'est-ce pas ? Donc il voulait repousser. Alors, après quelques minutes, Hafez s'est levé et parti. C'était un échec total. Il était, à mon avis, trop faible pour recommencer les négociations.
Et personne en Syrie ne pouvait se permettre si le président ne...
Ah non, non, non,
c'est un pouvoir quand même très centralisé.
Ah non, lui, c'était, après tout, c'était le fondateur de la Syrie moderne.
On arrive au terme de cet entretien. Si vous comparez le Moyen-Orient d'aujourd'hui avec celui que vous avez connu au début de votre vie de journaliste, quels sont les traits dominants qui sont toujours d'actualité et les grands changements qui vous impressionnent?
Écoutez, je ne sais pas si vous vous souvenez des grands slogans du parti Baath, qui est hélas plus aujourd'hui ce qu'il était. Il parlait d'unité, de liberté et de socialisme. Bon, unité, il n'y a pas d'unité dans le monde arabe. Au contraire, il y a une sorte de guerre froide entre les grands pays arabes. Liberté, est-ce qu'on peut dire que les Arabes sont libres tant que les territoires palestiniens sont occupés, tant qu'il y a des bases américaines partout, tant que on ne peut vraiment pas parler de liberté. Socialisme, qui parle de socialisme maintenant? Hélas, il n'y a que des écarts de plus en plus grands entre pauvres et riches. Il y a encore beaucoup à faire.
Merci infiniment, Patrick Seale, d'avoir accepté de participer à Portrait d'Orient.